Qui va aller sur la Terre?
La Terre? Qui veut aller sur la Terre? Personne pour la Terre?
Sur les autres planètes, ils nous apprennent des choses. Et nous aussi, mais la Terre.
Bon, d'accord, ils sont très arriérés, mais c'est pas une raison.
C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies sans remède, la préhistoire, quoi.
Hé, tu crois qu'ils ont encore des automobiles?
C'est quoi les automobiles?
Mais qu'est-ce qu'on fait?
Envers et contre tout, l'Odyssée futuriste pour changer d'atmosphère.
Bienvenue dans Envers et contre tout, l'émission qui vous raconte l'écologie comme un roman d'anticipation avec pour horizon 2050. Pour ce deuxième numéro, parlons bidoche et futur.
Cela ne vous a pas échappé, il y a de plus en plus de gens sur cette fichue planète et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En 2050, selon l'ONU, la population mondiale sera passée de 7,4 milliards d'êtres humains à plus de 9,1 milliards. Cela fait autant de bouches supplémentaires à nourrir sur des terres agricoles déjà saturées par la production de viande. Une chose est sûre, notre chère planète ne pourra pas nourrir plus de carnivores.
À défaut de manger de l'air, en 2050, il faudra manger du verre. Auparavant raillé, le végétarien interroge et son régime s'impose comme la solution face à une planète en bout de course et à des appétits toujours plus aiguisés. 63% des émissions de carbone seraient réduites d'un coup si tout le monde devenait végétarien. L'élevage est l'activité la plus polluante au monde, devant les transports, voitures et avions compris. D'où un adage qui se répand à travers les blogs écolos. Mieux vaut un végétarien au volant d'un pick-up qu'un carnivore à vélo.
Viande de synthèse, mayonnaise d'algues, des œufs qui sortent des plantes, le retour en fanfare des légumineuses, rien n'est trop beau pour enterrer la bavette. Comment convaincre la population de l'importance d'un régime végétarien? Comment la food tech prépare le monde de l'après-viande?
Pour répondre à ces questions, nous vous avons concocté un menu savoureux avec, en guise d'amuse-bouche, un petit extrait du Rayon Vert d'Éric Romer.
Non mais jamais tu manges de viande?
Non, jamais.
Ah bon?
Même poisson? Bah le poisson pas trop non plus, tu vois, j'en mange des fois quand quand il y a rien d'autre, alors tu vois, bah parce qu'il faut bien un petit quelque chose de protéines quand je suis chez les gens des fois, mais moi pas trop quoi. Ah.
Et au niveau de l'organisme,
tout
pas de problème?
Non,
tout va bien?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Non, je me porte bien, mais chez moi je mange des céréales, je mange des je me fais des trucs bien.
Des laitages, non?
Ouais, le laitage, ouais.
Du lait.
Ouais, du lait, des amandes, des trucs comme ça. Y a pas besoin de viande, franchement.
Ça doit poser des problèmes, non, quand tu es chez des gens, enfin.
Bah comme là, mais.
Ouais.
Non.
Ouais, on comprend bien.
Avouez-le, cette situation ne vous est pas étrangère. Vous vous êtes déjà retrouvé dans la position de Delphine, l'héroïne, ou dans celle de l'un des convives. Ah bah oui, forcément, elle est végétarienne parce qu'elle préfère les légumes. Et du poisson, peut-être? Ah non, non, on est perdu. Et avec ou sans les œufs, le vegan?
La face du monde.
La réponse, c'était bien sans les œufs pour le vegan. Quitte à faire une mayonnaise sans cet ingrédient qui nous paraît indispensable. On vous en dit plus avec notre reportage aux côtés de la start-up Algama, qui mise sur les micro-algues pour vous passer l'envie de manger des animaux. Nous avons accompagné la jeune entreprise qui commence tout juste à commercialiser son premier produit de mayonnaise sans œufs au cours d'un de ses ateliers de dégustation. Nous nous retrouverons ensuite pour une table ronde avec nos invités pour se demander si le végétarien est l'avenir de l'humain.
Bienvenue chez Carrefour.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir monsieur.
Excusez-moi de vous déranger, on est une toute jeune société française, on vient de remporter le premier prix Innovation Carrefour. Et à cette occasion, je me permets de venir présenter nos produits en rayon. D'accord. En fait, il s'agit d'une gamme de sauces mayonnaise sans œufs et qui contiennent jusqu'à 60% de matière grasse en moins, comparé à ce qu'on trouve actuellement sur le marché, qu'on a décliné en 4 saveurs, une mayonnaise classique, une ail et fines herbes, une curry et une piquante. D'accord. Est-ce qu'il y a une de ces saveurs qui pourrait vous intéresser?
Curry, je suis assez curieux de découvrir.
À la base, en fait, l'aventure, elle a commencé, elle a créé la société le 27 novembre 2013, et c'est trois amis d'enfance, Alvin Severien, Mathieu Gonsalves et Gaëtan Gouin, qui se connaissent eux depuis le collège, et en fait, ils se sont rendus compte au travers de différentes aventures personnelles du potentiel des microalgues, que ce soit d'un point de vue durable ou des qualités nutritionnelles. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait simplement des grosses contraintes organoleptiques en termes de goût, d'odeur et de texture pour incorporer ces super aliments dans le quotidien des gens. Et ils ont décidé de lever ces barrières et de proposer des aliments sains et savoureux pour le quotidien. Et de là est né The Good Spoon notamment, et d'autres produits à venir.
Ok, non mais ça ne m'avait pas interpellée l'algue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement, surtout que là je suis enceinte, je recherche des produits un peu plus sains en fait. Et voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers la gamme. Mais après, algues, ça ne me parle pas trop.
Les algues, c'est des choses qu'on peut voir à l'œil nu déjà, dans la mer, et qui peuvent nous embêter même quand on nage, ou qui ont pu poser quelques dégâts sur nos plages de France. Les microalgues, en fait, c'est du phytoplancton, donc qui n'est pas visible du tout à l'œil nu, et qui s'apparente à des cyanobactéries. Donc c'est quelque chose de tout petit, et qui est réellement un super aliment, et qui a besoin pour se développer simplement d'une eau saine et d'une certaine température. Et après qu'on développe du coup dans des raceways, ou alors dans des photobioréacteurs, des raceways étant des bassins ouverts. Pour préciser, la culture est très simple, notamment aussi dans les pays d'Afrique qui souffrent de malnutrition. Et où ce qui est assez formidable avec les microalgues, c'est notamment qu'on peut les développer de manière très simple, comme je disais, puisqu'il suffit d'avoir une eau saine et une certaine température pour que ça pousse et que ça se développe. Et après, on les récolte.
Tu mets ça sur un morceau de pain ?
Oui, parfait. Ça a le goût d'une mayonnaise classique avec le goût du curry. On sent pas de l'absence d'œuf. Ouais, non, c'est très bon.
Ça vous fait ?
Ouais, vraiment. Merci.
Je suis Hugo Lercher et moi je suis associé et responsable commercial au sein de notre jeune société. J'ai rejoint l'aventure quasiment dès le début. Donc j'aide beaucoup à nouer nos partenariats commerciaux en France et puis également aux États-Unis où notre société se développe parce qu'on est réellement pionnier dans la valorisation des microalgues aujourd'hui dans l'alimentation. Ce qui nous vaut le plaisir et la chance, quelque part, de pouvoir également émerger aux États-Unis. Là, nos produits vont sortir dans une poignée de jours également, parce que c'est réellement la première mayonnaise au monde réalisée à partir de microalgues.
C'est pas vous ?
Non, non, c'est pas vous.
Pour ce qui est de l'alimentation de demain et du futur, comme je l'imagine, parler en mon nom, mais c'est voilà, une alimentation qui est saine, savoureuse, durable et abordable pour tous. Le but réellement en attaquant le marché de la grande consommation, c'est de proposer à tous une alimentation qui est plus saine et plus durable, mais qui est surtout abordable, parce qu'il y a toujours une notion de prix, et le but c'est pas que ce soit réservé à un certain type de population, c'est que tout le monde puisse en bénéficier au quotidien, sinon je pense qu'on perd une des raisons d'être de notre société, qui est de permettre à chacun de toucher une meilleure alimentation. La population végane est forcément un cœur de cible pour nous, mais on va dire qui est, je pense, naturellement acquis à la cause. On est ravis de pouvoir répondre aux besoins de ces personnes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand des gens qui consomment de la viande ou justement des mayonnaises avec des œufs viendront à prendre naturellement et spontanément nos produits, que ce soit pour les aspects nutritionnels en plus, avec les 60% de matière grasse en moins, ou simplement parce qu'ils adorent le goût. Ouais. Et nous, voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'attaquer la grande consommation. C'est qu'on ne voulait pas restreindre encore une fois nos produits à un type de population, mais pouvoir l'offrir à tous, même s'il y a beaucoup plus de compétition forcément dans le domaine.
Souvent j'achète des crudités avec des sauces.
Ok.
Donc je vais goûter.
Il y a quatre saveurs, une mayonnaise classique, une ail et fines herbes, une curry et une piquante.
Bon bah.
Qu'est-ce que vous dites ?
Bah chacune.
Eh bah allez-y, venez. Bah, allez-y,
un petit coup.
Ail et fines herbes ensuite si vous voulez. Une carotte. Hein. Yep, tenez monsieur.
Un grand merci à Algamafou de nous avoir fait goûter à sa mayonnaise sans œufs, mais bourrée d'algues. Et quelles autres alternatives aux produits animaux s'imposeront d'ici 2050 ? De quoi sera remplie notre assiette ? Le véganisme sera-t-il devenu la nouvelle norme ? C'est le moment de se tourner vers nos invités pour en discuter.
La table ronde.
Bienvenue dans la table ronde d'Envers et Contre Tout. Pour imaginer à quoi ressemblera la nourriture du futur, nous sommes avec Nicolas de l'association de protection animale L214. C'est une association notamment connue pour documenter ce qu'il se passe dans les abattoirs, mais qui mène également des campagnes de sensibilisation sur l'impact de la consommation de viande sur la santé, mais aussi sur la planète. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous allez être amené à discuter avec Nathalie, qui est avec nous au téléphone. Nathalie Roland est chercheuse spécialiste de l'acceptation sociale de la viande in vitro à l'Université de Maastricht. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Eh bien, merci à tous les deux de prendre le temps de discuter avec nous. On voulait commencer un peu par une question qui peut paraître un peu simple, mais qui permet d'introduire la discussion. Je vais d'abord m'adresser à vous, Nicolas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi être végane ?
Alors, c'est très simple, comme vous l'avez dit, être végane, ça consiste tout simplement à vivre en essayant d'exclure les animaux de son mode de vie, c'est-à-dire ne pas consommer de viande, de lait ou d'autres produits animaux, ni d'œufs par exemple, de ne pas aller aux zoos ou rien qui ait impliqué la captivité d'un animal, et voilà, vivre en essayant de ne pas exploiter les animaux et de minimiser son impact sur eux.
Éviter le cuir aussi par exemple.
Voilà, tout à fait, on ne porte pas de cuir, pas de laine et voilà, c'est à peu près tout, c'est simple finalement.
D'accord. Du coup, le végétarien serait plutôt un régime alimentaire et le vegan plutôt tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire vraiment...
Voilà, le véganisme va un tout petit peu plus loin que le végétarisme, en incorporant les aspects liés à l'habillement, aux cosmétiques et aux loisirs.
Ouais, très bien, c'était important, je pense, de faire le point.
Et comme nous l'évoquions dans l'édito, la consommation de viande, on se rend compte qu'elle devient de plus en plus problématique pour essayer de maintenir une planète respirable à une chaleur relativement tempérée et pour nourrir toute la population, parce que justement la production de viande implique à la fois du réchauffement climatique, la pollution des sols, etc. Donc on voulait aborder toutes ces questions-là avec vous et essayer de comprendre du coup de quoi sera fait l'alimentation du futur. Et donc, pour commencer, on voulait aussi savoir pourquoi, selon vous, il faudrait arrêter de manger de la viande. Est-ce que vous pourriez résumer à nouveau ces arguments ?
Alors, il y a énormément d'aspects qui peuvent amener à arrêter de manger de la viande. Le premier, ce sera les animaux, parce qu'ils sont des êtres sensibles. Ils sont 3 millions d'animaux terrestres à être tués chaque jour en France dans les abattoirs. Et avant cela, ils ont subi de manière routinière de nombreuses mutilations dans les élevages. Au niveau de l'environnement, comme vous l'avez dit, l'élevage est un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Il accapare énormément de ressources végétales, alors que dans le même temps, énormément d'humains souffrent de malnutrition. Cela pourrait donc permettre un meilleur partage des ressources. Il y a également pour la santé, au niveau, comme l'OMS l'a indiqué dans un rapport récent, la viande rouge était classée comme cancérigène.
Mm-hmm. Probablement voilà. cancérigène.
Probablement cancérigène.
Ouais. Et Nathalie, ouais. Vous souhaitez intervenir ? Pourquoi, selon vous, il faudrait arrêter de manger de la viande ?
Bah oui, c'est pour ces raisons-là. Donc le côté donc éthique, parce que voilà, en fait, il y a quand même de plus en plus, les gens. Je pense qu'on a de plus en plus de mal à concevoir, à accepter ce qui se passe aujourd'hui dans les abattoirs et dans les élevages. Donc il y a une grosse partie même des Français qui apparemment donc a dit qu'ils voudraient diminuer leur consommation de viande et aussi donc les conséquences sur l'environnement. Donc comme elles ont été citées, donc pas mal de problèmes liés à ça. Et en fait, avec une consommation de viande qui apparemment devrait doubler d'ici 2050, tous les effets négatifs sur l'environnement qu'il y a déjà avec la production de viande conventionnelle vont être doublés. Donc au niveau environnemental, ça va vraiment être très problématique. Et voilà, en fait, on va dire qu'au niveau techniquement, ce n'est pas possible de continuer à produire des produits animaux de la façon dont on fait aujourd'hui et pour répondre à la demande grandissante de produits animaux. Donc il faut trouver des alternatives. Donc voilà, il faut réfléchir à d'autres façons de faire les choses et à quelles alternatives peuvent être intéressantes pour nourrir tout le monde dans le futur.
Ouais, et donc éviter que cette consommation double justement d'ici d'ici 2050,
que, oui, que ces produits, avec les moyens de production, la façon dont les produits aujourd'hui, voilà, ça, cette façon-là ne va pas fonctionner pour produire encore plus dans l'avenir. Non.
Et justement, vous parliez des alternatives, mais vous travaillez justement sur une des alternatives, donc sur la viande in vitro. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu rapidement qu'est-ce que c'est la viande in vitro ?
Alors en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. Et donc l'agriculture cellulaire, c'est en fait produire des produits animaux avec des cellules et donc pas avec des individus entiers, donc pas avec des animaux. Donc la viande cultivée fait partie donc de l'agriculture cellulaire et donc le principe est assez simple. En fait, on prélève des cellules sur un animal par biopsie indolore. Donc ces cellules après sont prises et on les met, en fait elles se développent dans un bioréacteur avec un sérum pour les nourrir. Donc sérum qui ne contient pas, le but est qu'ils ne contiennent pas de produits animaux pour que tout ça reste évidemment durable. Et ça crée à la fin de la viande. Donc en fait, le processus n'est pas très compliqué. Il vient de techniques médicales. Pardon ?
Oui, ça paraît compliqué pour nous, comme ça, quand vous l'expliquez. Mais après, d'un point de vue scientifique, sans doute que non. Mais...
Oui, voilà.
Voilà, c'est, en fait, d'un point de vue scientifique, futuriste. C'est...
Voilà, mais en fait, c'est à la place de demander à un animal de créer sa propre viande, ses propres muscles, on fait ça, on va dire, à l'extérieur de l'animal. Ça change au final pas grand-chose, quoi. C'est vraiment la façon de produire qui est différente, mais le produit est le même et l'utilisation du produit sera la même. Et donc, pour donner des exemples, déjà dans les années 80, on a produit de l'insuline de cette façon, donc avec des bactéries qu'on produit de l'insuline humaine, et maintenant, on soigne beaucoup de gens avec ça. Et au niveau de l'alimentation, donc on a fait dans les années 90 de la pressure donc fabriquée en laboratoire, parce que la pressure, on en a besoin pour, par exemple, faire du fromage, et normalement, enfin, la pressure traditionnelle vient d'estomac de veau, donc pour faire donc certains fromages, il faut tuer des veaux pour prendre ce qu'il y a dans leur estomac, et donc la pressure faite donc en laboratoire permet, voilà, de pas tuer les animaux, que ça soit plus efficace, moins cher, et voilà, au niveau environnemental c'est mieux aussi. Et donc cette agriculture cellulaire, on peut un peu voir ça comme la troisième phase de l'évolution après la chasse, l'élevage, et donc dans le futur la culture en laboratoire, qui aura beaucoup d'avantages par rapport aux moyens de production qu'on a aujourd'hui.
Et est-ce qu'il y a des... Vous décrivez ça donc comme la troisième évolution, mais est-ce qu'il n'y a pas des freins à cette acceptation ? Parce que c'est vrai que ça paraît encore un peu fantasmé, en fait, fantastique même. Comment, en fait, on peut faire pour que cette viande in vitro soit mieux acceptée ? C'est votre travail, justement, de chercher à faire en sorte que ça soit mieux accepté. Quels arguments vous utilisez pour dire aux gens qui aiment le vrai morceau de viande qui vient d'un animal et qui disent que justement, c'est naturel d'en manger. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
En fait, le travail là qu'on fait, alors il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur l'acceptation du consommateur de cette viande. Donc, on essaye de voir justement ce que les personnes pensent de cette viande. Et après, si on veut évidemment qu'ils consomment, il faut qu'ils comprennent quand même les bénéfices, donc les bénéfices pour les animaux, pour l'environnement et du produit en lui-même. C'est-à-dire que, en fait, le produit en lui-même, on va pouvoir maîtriser beaucoup mieux la production de cette viande, parce que donc ça sera fait dans un univers vraiment contrôlé. Donc il n'y aura pas besoin de mettre, par exemple, des antibiotiques, des hormones, tout ça, et donc on va éviter tout ce qui est bactéries et vaches folles, par exemple, ces choses-là. Et c'est vrai que les gens, avec tous les scandales qu'on a régulièrement, pourraient être aussi intéressés, voilà, de consommer quelque chose qui est plus sain, sans tous ces problèmes-là.
Au niveau du goût, au niveau des morceaux qu'on mange d'habitude, est-ce que c'est exactement la même chose ?
Alors oui, c'est vrai que le goût, là pour l'instant, ça reste une des inquiétudes justement des personnes dans ce qu'on peut voir dans les études, parce que c'est très important, effectivement, et il faudra que le goût soit là, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de développer ces alternatives si le goût est mauvais, hein. Ça c'est une évidence, il faudra que ce soit bon, et il faudra que ça soit semblable aux produits animaux qui existent déjà, donc à terme, c'est vraiment ce qui est recherché. Et voilà, c'est vraiment le travail de tous les chercheurs qui travaillent là-dessus. on peut pas faire sans. Le goût, c'est une obligation. Et même, en fait, c'est le principal, on va dire, critère de consommation de la viande. C'est le goût en premier. Donc, il faudra que ça soit des produits qui soient bons et qui soient semblables aux produits animaux. Et c'est aussi pour ça, justement, qu'on développe cette alternative, parce qu'il y a déjà des alternatives végétales qui existent, et qu'il y en a qui sont... Alors, la plupart sont très bien, et sont déjà proches des produits animaux, mais pour aller encore plus près, ça sera, a priori, plus facile avec l'agriculture cellulaire de se rapprocher des produits animaux et de leur goût. Donc, c'est pour ça qu'on développe ces alternatives. Et c'est aussi pour que, en fait... ces alternatives de l'agriculture cellulaire n'aient pas les barrières qu'ont les alternatives végétales. C'est-à-dire que les alternatives végétales, donc les personnes vont penser que ce n'est pas assez ressemblant aux produits animaux, ou vont penser que le goût n'est pas bon, et souvent sans goûter, mais c'est parce qu'il y a un a priori négatif sur les alternatives végétales. Et ça demande aussi de changer ses habitudes de consommation. Par exemple, quand on fait ses courses, soit d'aller dans un autre supermarché ou dans un autre rayon, et ça, c'est déjà un obstacle trop important pour certains consommateurs. Et il y a aussi une part de culture et de pression sociale, parce que voilà, le fait de ne plus manger de produits animaux, il y a quand même une pression sociale. Hein. C'est surtout, dans un pays comme la France, ça peut être encore très problématique parfois. Voilà, de consommer différemment. Donc c'est pour ça que les produits de l'agriculture cellulaire, ça va être de la viande, ça va être, si c'est des œufs, ça va être des œufs, donc ça sera plus simple, il y aura plus cette pression sociale, sera beaucoup moins forte.
Ah oui, on peut faire des œufs et du lait, comme vous disiez?
Oui, alors en fait, on peut faire plein de choses, et il y a déjà des startups qui travaillent là-dessus, donc il y en a qui sont sur la viande, sur le poisson, sur les œufs, le lait, et puis ça concerne aussi tous les produits animaux, donc pas que l'alimentation, comme le cuir, la soie. Donc en fait, il y a vraiment, quelque part, tout à remplacer. Voilà, et donc ça va être a priori une industrie qui risque d'être vraiment très importante, parce que le but en fait c'est de remplacer les produits qui existent actuellement et qui posent beaucoup de problèmes à différents niveaux.
Et c'est à quel horizon en fait? Parce que là on est au stade de la recherche, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire en communication, en information pour essayer de convaincre, mais en gros on en est où? Enfin, est-ce qu'en 2050 ce sera prêt?
Alors, a priori, quand même, en 2050, ça devrait être bon. Hein, parce que il y a des startups, par exemple, il y a une startup aux États-Unis qui parle, en fait, qui dit que l'année prochaine, ils auront déjà le premier produit sur le marché. Bon, après, ça paraît un petit peu un peu étrange quand même, parce qu'ils viennent juste de se lancer, mais bon, à voir. Et autrement, on entend peut-être dans 4 ans, 5 ans.
D'accord, oui.
Donc, quand même, avant 2050, j'espère bien que ça sera là avant 2050.
C'est dans pas trop longtemps, au final. Je pensais que ce serait un peu plus long.
Alors, après, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Parce que plus il y aura des gens qui travailleront là-dessus, et plus ça ira vite. Donc voilà, mais oui, espérons que ça soit bien avant, parce que je pense pas que la planète puisse attendre autant pour trouver des alternatives efficaces.
En effet, il y a une petite urgence.
Oui.
Et vous, Nicolas, est-ce que vous mangeriez de cette viande in vitro? Est-ce que justement l'agriculture cellulaire, c'est une alternative qui est enviable, qui est pour les véganes?
Je sais pas si les véganes seront vraiment le cœur de cible de ce produit, mais comme l'a dit Nathalie juste avant, si le produit parvient à être totalement sans produits animaux, qu'il retire totalement les animaux de l'équation, je vois pas tellement quelle barrière pourrait se poser à le consommer. Donc pour notre point de vue en tout cas, il n'y a rien de dramatique. Après, le produit est encore en développement et il faudra vraiment que tous les leviers techniques soient levés pour que les véganes puissent le consommer sereinement.
Mais ça pourrait permettre par contre au régime, au mode de vie plutôt vegan, de devenir plus populaire en fait, démocratiser plus rapidement.
Là, ça sera, je pense, un bon en avant pour le véganisme, vu qu'il n'y aurait quelque part plus d'exploitation d'animaux, plus de souffrance, et il n'y aurait finalement plus les problèmes posés par la viande à l'heure actuelle.
Et en parlant justement de ces alternatives, c'est vrai que Nathalie, vous parliez des startups américaines, mais on pensait aussi à ces startups-là, je pense à Beyond Meat et Beyond Eggs, mais du coup qui font des substituts de viande à base de plantes. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler parce que récemment, Leonardo DiCaprio a investi dans ces startups. Et du coup, est-ce que vous suivez ça avec attention? Est-ce que ça suscite pareil beaucoup d'espoir pour la communauté végane et puis pour tout le monde. Peut-être Nicolas, peut-être, ouais, si...
Au niveau des startups végétales, c'est effectivement quelque chose qui peut être fait tout de suite, alors que la viande cellulaire est encore en développement. Mm-hmm. Et c'est vraiment, je pense, une bonne chose, parce que ces produits se développent très bien. Mais cependant, ce n'est pas encore ça par rapport aux produits animaux, même s'ils sont très, très, très bons. Mm-hmm. Et en fait, je voulais aussi rajouter que récemment, l'université de Berkeley a ouvert un laboratoire en partenariat avec Givaudan, qui est le leader mondial des arômes et des parfums. Et donc, tous les auditeurs ont probablement déjà consommé de leurs produits pour en fait proposer de rendre les alternatives végétales meilleures. Et en fait, ils vont partager tous leurs résultats en open source. Donc, ça pourrait profiter autant à l'industrie de la viande cellulaire qu'à l'industrie des alternatives végétales.
Ouais. Parce que vous pouvez rappeler, en fait, les substituts de viande à base de plantes, c'est ça, c'est à base de protéines de pois. On parlait tout à l'heure aussi du jus de betterave pour faire justement en sorte que le steak soit plus rouge. C'est toutes ces plantes qui font...
Oh oui, il y a énormément de sources de protéines chez les végétaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mm-hmm. Il y a les protéines de soja qui sont assez communes, notamment avec le tofu, mais également les protéines de soja texturées. Vous allez avoir les protéines de blé, qui une fois extraites, typiquement le gluten, qui sert à faire le seitan, qui est aussi tout à fait viable. Il y a les protéines de pois, ça commence à peine à se développer en France. C'est notamment Roquette dans le nord de la France qui commence à proposer un produit. Il y a à peu près, à ma connaissance, une seule référence disponible dans le commerce pour les véganes s'ils veulent essayer. Et sinon, la compagnie Tereos a ouvert une usine pilote de protéines végétales et elle mélange des protéines issues de pois chiches avec des protéines de blé. Et ça, c'est au stade pilote encore.
D'accord, ok. Donc il y a quand même quelques initiatives en France.
Oui, il y a tout un groupe en fait de compagnies qui proposent des protéines végétales et elles ont fait une lettre ouverte récemment au ministère par rapport aux états généraux de l'alimentation parce qu'ils s'étonnaient un peu de ne pas être du tout écoutés par rapport à l'alimentation de demain.
D'accord, ok. Ouais.
Et au-delà de ces protéines végétales, il y a aussi toutes les légumineuses qui commencent à être réhabilitées aujourd'hui. Mais c'est vraiment très progressif, alors que c'était des aliments qu'on consommait énormément, enfin que nos grands-parents, en tous les cas, consommaient énormément, comme les lentilles, par exemple. Même les pois chiches, aujourd'hui, ça revient, mais vraiment tout doucement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce qu'on ne doit pas aussi investir dans l'éducation en fait, pour faire en sorte que ces légumineuses donc, qui apportent des protéines végétales se répandent un peu plus et correspondent à... réussissent à remplir en fait, nos besoins en protéines journaliers quoi.
Tout à fait, parce que les légumineuses sont une source tout à fait convenable et très correcte de protéines végétales, mais y compris de fer et d'autres nutriments. Et c'est à tel point que la FAO, en fait, le Bureau de l'agriculture de l'ONU, ouais. Voilà, je ne retrouvais plus le mot, avait décrété en 2016 que ce serait l'année internationale des légumineuses.
Oui,
donc il y avait tout un tas de recettes qui étaient liées à ça. Il y avait aussi effectivement le lupin, que les personnes d'origine portugaise connaîtront plus facilement, alors que c'était cultivé en France auparavant, alors que ça peut très bien se consommer en saumure, typiquement comme les olives, et ça apporte énormément de protéines.
Encore une fois, il faut faire vraiment des actions de sensibilisation, voilà, en fait, apprendre à revoir un peu ses idées reçues et voir qu'il y a aussi beaucoup d'aliments qui peuvent peut-être se substituer.
Voilà.
Et du coup, je voulais dire aussi quelque chose par rapport à ça, c'est qu'en fait, avant en France, on consommait pas autant de viande, donc on consommait beaucoup plus de légumineuses. Donc c'est pas comme si la situation d'aujourd'hui était normale. Hein. La consommation de viande aujourd'hui, on consomme beaucoup trop de viande. Et avant la guerre, on ne consommait pas cette quantité de viande et par exemple, on consommait beaucoup plus des légumineuses.
Bien
Donc en fait, c'est un petit peu revenir avant que, voilà, quelque part, marketing fasse que les gens mangent plus de viande. C'est juste revenir à quelque chose, une situation plus normale finalement.
Oui, puis ça, c'est d'ailleurs la consommation de viande a doublé entre 1950 et 2000, mais c'est aussi lié à des prix qui se sont complètement réduits et donc à des conditions d'élevage finalement, à des conditions d'élevage pour les animaux plus difficiles et donc à des revenus aussi plus moindres en fait pour les agriculteurs quoi.
Au niveau des...
Oui, Nicolas.
Du coût de l'élevage, ça aussi, enfin le coût de la viande, c'est aussi nettement réduit à cause des externalisations de coûts qui ont été menées et énormément de manœuvres politiques en ce sens, en fait.
Oui, les élevages intensifs qui se sont développés, etc.
Ouais. Et subventions aussi, du coup, parce que là, le coût de la viande, il est artificiellement bas. Si les gens devaient acheter de la viande au coût réel, déjà, peut-être qu'ils mangeraient un peu différemment. Ouais. Et ça peut être intéressant que les subventions soient mises sur les produits qui bénéficient à tout le monde et pas que sur cette filière. Surtout que la situation des éleveurs aujourd'hui n'est pas très bonne, que c'est un métier très difficile d'être éleveur, que eux-mêmes le disent. C'est quand même dommage que quelque part on mise encore sur l'élevage alors qu'on sait qu'il n'y a pas forcément un avenir très bon pour la viande et pour les éleveurs. Ça serait peut-être plus responsable de penser reconversion et de mettre de l'argent sur les alternatives.
Parce qu'il y a un vrai travail politique à mener aussi à ce niveau-là.
On entend et c'est un message évidemment essentiel. Du coup, on n'a plus beaucoup de temps pour cette discussion. Alors, on voulait conclure un peu rapidement avec vous en disant, en 2050, qu'est-ce qu'il y aura dans votre assiette un peu à rêver ? Nicolas, peut-être en premier.
Alors moi, je suis très bon mangeur. On ne cesse vraiment pas de manger quand on devient vegan. Si la viande cellulaire se développe au point de ne plus impliquer du tout de produits animaux, ce sera pourquoi pas. Mais sinon, on va dire un des burgers de Beyond Meat qui semble tout à fait prometteur pour être pas mal.
Super. Et vous, Nathalie ?
Je sais pas trop. En fait, moi, je voudrais juste manger les choses que j'aime et sans qu'il y ait de conséquences négatives et qu'on puisse manger, que ça soit accessible partout. Parce que maintenant, aujourd'hui, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est qu'il y a déjà des choses très bien, mais pas accessibles partout. Donc voilà, en fait, qu'on puisse se faire plaisir et en ayant bonne conscience. Et si je peux aussi dire quelque chose d'autre, un peu comme là, en fait, donc c'est une radio qui s'adresse aux étudiants. Je voudrais dire que justement, en fait, toutes ces startups de l'agriculture cellulaire vont avoir besoin de gens pour travailler dedans. Donc, s'ils s'intéressent à ça, ils peuvent déjà commencer à regarder quel type, en fait, de postes les startups ont besoin, parce qu'il va avoir besoin de gens pour travailler dans ce secteur. Et pour les étudiants qui sont aussi intéressés, il y a une association étudiante qui existe sur l'agriculture cellulaire. Donc, pour l'instant, c'est surtout aux États-Unis, mais ils voudraient que des associations comme ça s'ouvrent un peu partout dans le monde et dans les universités. Ça s'appelle la Cellular Agriculture Society. Donc, avec le site internet qui va sortir d'ici peu, donc c'est CELAG, donc CELAG.org.
Ok, super. Donc, un métier d'avenir pour l'alimentation du futur.
C'est
parfait.
Ça, c'est un message d'espoir, tout simplement.
Si vous voulez en savoir plus sur les conditions de vie des animaux, vous pouvez également joindre l'association étudiante Sentience. Ouais. Normalement, c'est réseau-sentience.org. Il y a des antennes à Lyon, Paris, Lille.
Parfait. On mettra toutes ces petites références aussi
sur la page de
Radio Campus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps en tout cas de discuter avec nous. Merci Nicolas, merci Nathalie.
Merci beaucoup.
Et pour nous, il est temps de faire une petite pause en musique avec Prise Unique de The Liminanas. Et on revient après pour vous annoncer que le bœuf est mort ce soir.
Chez Prise Unique, parmi les tomates atomiques, t'étais sapé genre l'as de pique, mais tu m'as fait forte impression, comme en ex-Union soviétique, j'étais d'humeur neurasthénique, quand près des saumons de la Baltique, tu m'as regardé les yeux ronds. J'ai profité de l'occasion pour te faire la conversation devant mes propos platoniques. Tu es resté sans réaction, avec un air énigmatique. Tu as pris le chemin de l'exit ce corps à corps télépathique, à tourner à ma confusion, sous l'œil des néons hypnotiques, dans ce décor pharaonique, tout est devenu fantomatique. J'ai plongé dans la dépression, dans un état catatonique. J'ai entendu de la musique. C'était les mignanadéliques qui passaient en mondovision. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. J'ai eu la révélation.
C'était Prise Unique de The Liminianas. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La denrée rare.
La denrée rare, c'est quelques minutes pour imaginer le monde face à la pénurie de l'un de ses éléments fondateurs, avec des solutions plus fantasmées que pratiques pour sauver la planète.
Bœuf bourguignon ou bœuf carotte, pot-au-feu ou carbonade flamande, steak frites ou pâte à la bolognaise. Mais si l'on devait troquer nos bons vieux plats des régions, ceux qui mijotent de longues heures et embaument les cuisines, ou bien se débarrasser des solutions qu'on prépare en 10 minutes top chrono après s'être acharné sur une ouverture facile tout sauf facile, ou avoir débouché d'un bon plop un pot de sauce préparée.
T'aurais pas une bonne idée pour le dîner?
Que tu es bécasse! Un bœuf bourguignon, cuisine de pays pardi,
du bœuf mariné,
de savoureuses petites pommes de terre
et ses carottes fondantes.
Hélas, malgré les bons conseils de Maïté, préparez vos adieux à la viande mijotée, au tourne d'eau retourné sur la poêle et à cette sauce réchauffée au micro-ondes. Mais aussi au lait de vache, au yaourt crémeux, la laitière, au camembert et au comté. Car tous les oracles de la déesse Gaïa, notre mère Terre, le prédisent. En 2050, la viande de bœuf et tous ses dérivés seront devenus une denrée rare, de celle qui ne se vend plus que sous le manteau. La consommation de viande avait quintuplé entre 1950 et 2000. Elle prend le chemin inverse durant le demi-siècle suivant. Viande de bœuf en tête, c'est une question de survie de l'humanité. Car l'élevage de bœuf est accusé de tous les fléaux en 2017. C'est la viande qui consomme le plus d'eau. Rien de moins qu'une petite piscine de 15 500 litres est nécessaire pour irriguer les céréales et le fourrage indispensables à son bien-être et au développement de ses muscles dodus dans lesquels l'humain croque ensuite. C'est aussi la viande qui contribue le plus au réchauffement climatique. L'élevage est le premier facteur des émissions de gaz à effet de serre. Devant les transports, il est responsable de 14,5% des émissions, dont 9,7% dues uniquement aux bovins. Et ces bestioles ruminantes ont un système digestif si costaud qu'elles rejettent du méthane à gogo, un gaz 28 fois plus néfaste que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Sans oublier les kilos de céréales, de fourrage et de tourteaux de soja que les vaches ingurgitent, occupant des terres agricoles qui pourraient être libérées pour des protéines végétales qui arriveraient directement dans le gosier de l'homme, sans détour par la bête. Ah, cette vache, elle est barjot, mais nous aussi. Car si on acceptait enfin de réduire notre consommation de bidoche. Car dans un monde complètement vegan, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation diminueraient de 75%, selon une simulation réalisée par l'université d'Oxford. Si tous les habitants de la planète devenaient végétariens ou vegan, entre 7 et 8 millions de vies pourraient ainsi être sauvées. Abat le diabète, les maladies cardiovasculaires, les asthmes qui dégénèrent et certains cancers.
De quoi faire rêver les dirigeants qui ne savent plus comment endiguer la hausse des températures et tout ce qu'elle implique en termes de problèmes pour la santé ou de migration climatique. Alors à la COP41, en 2030, les chefs d'État tranchent dans le lard. À défaut d'éliminer complètement les protéines animales, au risque d'une révolution carnée, ils choisissent au moins d'instaurer la suppression du bœuf et des produits laitiers affiliés. Le reste de la viande, porc, volaille, ovin, sont quant à eux rationnés. Cette fois, la signature d'un accord international ne tarde pas et tous les parlements adoptent FISA une législature contraignant l'industrie agroalimentaire à ne plus accepter la vente et la transformation de la viande de bœuf et de ses dérivés.
Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Comme dans le film Le Soleil Vert, progressivement, la viande devient un lointain souvenir qu'on chérit. Mais cette révolution ne va pas sans heurts et sans grands bouleversements. Des mouvements de résistance s'organisent. Des carnivores vénères cachent quelques animaux encore vaillants pour les sacrifier sur l'autel de barbecue party illégal, s'exposant à de lourdes amendes. Mais les morceaux de viande restants et ces soirées sont bien vite cuites à l'étouffée, même s'ils se chuchotent que quelques saucisses de porc pourraient, peut-être, être encore accessibles sans y laisser tout son paquet de tickets de rationnement. Pour faire face à la disparition de la viande de bœuf et aux portions congrues des autres, les gros mangeurs se ruent enfin de manière volontaire et enjouée vers les insectes. Les start-up lancées dans les années 2010, qui peinaient à faire atterrir ces petites bêtes dans nos assiettes de tous les jours, deviennent des multinationales surpuissantes. On fait craquer les pattes des grillons et autres sauterelles sous la dent, le tout bien gaiement et en ayant la conscience écolo tranquille. On réinvente les plats. Rien de tel qu'un petit salé aux lentilles à base de criquet, et on se fait griller un bon gros steak d'insectes à la poêle. Car le steak chéri n'a pas dit son dernier mot. Pour satisfaire les esprits les plus rétifs, les viandards qui aiment encore quand ça gicle un peu, les rats de laboratoire se mettent à produire en quantité de la viande in vitro. Une bouchée de nostalgie directement sur la langue. Et on ne peut s'empêcher d'avoir un frisson de stupeur en repensant à ceux qui, quelques années plus tôt, osaient encore tuer un animal pour le manger. Mais le steak in vitro reste un produit de luxe pour certains. Alors à défaut de pouvoir manger de cette viande artificielle, il est possible de se payer des shots d'adrénaline carnés en réalité virtuelle. Enfermés dans une cabine, un casque sur la tête, des marchands de rêves proposent des songes virtuels. Là, on vous fait croire que vous êtes assis sur le comptoir d'une cuisine en formica. Et qu'on vous apporte un gros plat qui sort du four avec une odeur alléchante qui vous chatouille les narines. Vous le sentez ? C'est le bœuf bourguignon de Maïté. L'appétit cérébral est comblé. Vous avez encore faim ?
Et bon appétit, bien sûr. Merci Mathilde pour cette bouchée futuriste.
L'utopie oubliée.
Et on enchaîne avec l'utopie oubliée, une autre de nos chroniques dans laquelle on revisite la thématique de l'émission à la lumière des mythes fondateurs, réels ou fantasmés. Aujourd'hui, on se penche sur une cité végétalienne inventée par une troupe d'anarchistes.
La viande qui pue et qui fait mal, qui renforce. La viande partout sur la terre. La viande sur pattes, la viande, qu'est-ce que c'est ?
Le végétalisme est un anarchisme. Laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi vous parler d'une idée folle, celle d'une cité végétalienne née dans la tête d'un groupe d'anarchistes individualistes tendance naturiste des années 1920. Rassurez-vous, j'ai conscience d'avoir déjà dit plusieurs gros mots que je me dois d'expliquer. Alors, l'anarchisme individualiste, pour les nuls, c'est un courant de l'anarchisme qui prône la liberté des choix de l'individu face à ceux imposés par un collectif. Pour reprendre les mots d'Armand, un des leaders du mouvement, l'anarchisme individualiste, c'est la négation, le rejet, la haine de la domination et de l'exploitation. Tout ça à la fois. Et figurez-vous que ces dangereux révolutionnaires en voulaient aussi à notre beefsteak. La consommation de viande est perçue comme un instrument d'aliénation, au même titre que l'alcool ou la cigarette. Renoncer à la viande, c'est s'émanciper et adopter un mode de vie sain en accord avec la nature. Albert Libertad, l'anard en chef, parle de la viande comme un aliment qui asservit les travailleurs, les transformant en victimes qui se laissent nourrir du sang d'autres victimes. Cette idée folle est défendue et diffusée par Georges Buteau et Sofia Zaïkowska, fervents militants anarchistes, créateurs du premier foyer végétalien situé dans la rue Matisse du 19e arrondissement de Paris. Il se lie alors avec Louis Rimbaud, un autre anarchiste qui fricota un temps avec les bandits tragiques de la bande à Bono, avant de prôner lui aussi les vertus de la philosophie végétalienne. Ensemble, ils firent plusieurs expériences de colonies libertaires, notamment à Bascon dans l'Aisne, où ils imaginent une salade d'infinies variétés. La basconaise, composée de 34 variétés potagères pour compenser les protéines animales. Mais ces cités éphémères n'arrivent pas vraiment à prendre racine et il faudra attendre 1923 pour voir éclore la Terre libérée, une colonie imaginée et fondée par Louis Rimbaud en Touraine. Cette cité végétalienne se veut être un lieu de promotion et d'éducation sur les bienfaits de cette alimentation pour le corps et pour l'esprit. Elle accueille les âmes désireuses de vivre libres en ne répondant qu'aux lois de la nature, mais aussi des personnes malades qui cherchent leur remède dans les plantes. Pour lui, Rimbaud, cette terre libérée est une chance pour que l'individu puisse, en se libérant définitivement, se suffire à lui-même sans le recours de l'industrialisme qui restreint plus la liberté et l'individualité qu'il n'en donne. Il cherche un retour à la nature pour s'éloigner de cette société industrielle que les carnivores représentent si bien.
Le carnivorisme, c'est la lutte universelle. C'est l'homme retournant à la barbarie, c'est la nature détroussée, c'est l'humanité en esclavage, c'est l'animal rendu pervers. Le végétalisme, c'est la réconciliation avec la nature.
Dans un essai sur l'écologisme anarchiste, Arnaud Bodéro résume ainsi parfaitement la pensée de Rimbaud sur l'exploitation animale.
L'aliénation de l'animal à la production industrielle annonce la prolétarisation de l'humanité des gens et des bêtes. Par le culte du faux besoin et la volonté de satisfaire à des exigences dépassant les moyens d'action de l'homme.
Avouez que les végétariens anarchistes ont le sens de la formule. Pourtant, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. La terre libérée prend rapidement l'eau. Malgré les efforts de propagande de Rimbaud, ils ne sont que 5 à habiter de manière permanente la colonie, qui séduit davantage les touristes ponctuels qu'il ne reste jamais très longtemps. En plus, notre homme va se brouiller avec ses amis Buteau et Zaïkowska, mais aussi avec les voisins. Et il finira avec pour seule compagnie sa nouvelle femme, une enfant attardée qu'il avait recueillie avec sa précédente épouse. Alors rassurez-vous, j'ai conscience que cette fin est légèrement glauque, mais aussi que j'ai fait un pari risqué en vous racontant cette histoire. Certains y verront une preuve supplémentaire que les véganes ne sont rien d'autre que de dangereux illuminés rechignant à suivre la marche naturelle de la société. Mais admettez quand même que c'est follement intéressant. Si je n'aime ni les gourous ni les doctrines, je n'avais jamais envisagé le véganisme sous cet angle politique. Alors qu'on adore le décrire comme le symbole de la bonne conscience bourgeoise bohème, le véganisme fut un temps décrit comme un instrument d'émancipation, un projet de transformation sociale. Et plus que l'anarchisme, je crois bien que c'est cela qui me plaît, la petite pichenette contre l'ordre artificiel des choses, le coup de talon contre la société de consommation. Alors, disons-le haut et fort, ni Dieu, ni maître, ni steak.
Ni Dieu, ni maître.
Vegan, le point levé. Merci Pauline pour cette plongée dans le passé avec ses 12 utopistes. On continue la rêverie en musique avec les Filles Désir de Vendredi sur Mer.
J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir, il y en a plein des filles désirent. Des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour. Ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein, des filles désirent. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. Comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé, tu peux sortir le champagne. Je veux commencer quelque chose de nouveau, laisse-moi espérer un avenir plus beau. J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer, toute seule, je te jure, voyage en solitaire. J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était court, faut pas l'écrire. Ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir? Il y en a plein, des filles désirent. Faut pas le dire, mais c'était court. Faut pas l'écrire, ça pue l'amour.
C'était Les Filles Désirs de Vendredi sur Mer. Et maintenant, place à la beauté du geste.
La beauté du geste.
Dans Envers et Contre Tout, on a envie de vous présenter des projets en phase de financement participatif. C'est un moyen pour nous de mettre en valeur des projets verts qui misent sur le futur. Donc on reste un peu en phase avec l'émission. C'est le moment de les présenter. Et aujourd'hui, on met évidemment l'accent sur l'alimentation. Le premier projet est porté par l'association Ici Terre. Ses membres cherchent à rendre les murs de nos apparts et de nos maisons comestibles en y faisant pousser des plants de micro-pousses, un moyen de se nourrir pour l'avenir. Mais le mieux, c'est encore de laisser Luca Mangarelli, fondateur de l'association, qui peut nous en parler parce qu'il est avec nous au téléphone. Bonjour Luca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Du coup, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en quoi consiste votre projet de mur comestible ?
Eh bien, avec plaisir. Écoutez, le projet donc, s'appelle le mur comestible et l'intention de notre association, on est une association d'insertion professionnelle par la permaculture, c'est de vivre et agir joyeusement dans son environnement. Donc tout ce qui participe à ça, on tente de le favoriser. Et l'idée de ce mur comestible, c'est très simple, c'est de dire aux gens, voilà, même si vous galérez dans 10 mètres carrés, vous pouvez être acteur de votre alimentation, vous pouvez faire pousser une partie de votre salade toute l'année en intérieur. Et les micro-pousses, c'est des légumes en plein démarrage de croissance qui contiennent 20 à 30 fois plus de nutriments qu'un légume adulte. C'est de l'alimentation vivante, on la voit pousser tous les jours, et ben on la coupe et on la mange direct. Et c'est plein de vitalité.
Okay.
Et c'est vraiment un projet qui s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas des modules d'agriculture urbaine super chers, un peu compliqués avec des LED, des tapis chauffants. Non, c'est super simple. C'est un bac, du terreau, des graines. On arrose, ça pousse. Et quand c'est terminé, on coupe, on met le terreau dans un lombricomposteur et puis après on repart sur un cycle, comme ça on recrée un petit écosystème d'intérieur.
Ok, et donc concrètement comment on fait pour l'installer chez soi ?
Concrètement, il suffit de soit précommander le bac sur la plateforme Bluebees de crowdfunding. Mm-hmm. Et on a un partenariat, on est lauréat de l'innovation sociétale chez Nature et Découverte. Donc nos bacs vont être en vente là-bas.
Okay.
Quand on aura réussi à financer notre atelier. La particularité, c'est que ces bacs, ils vont être fabriqués par des personnes en grande précarité, soit qui sortent de la rue, soit qui sont encore dans la rue. Donc ils vont être accompagnés par les personnes de l'association.
Okay.
Et on a vraiment cherché un dispositif qui soit vertueux et qui soit local dans cette pensée de la permaculture. Donc après 2 ans de recherche et de développement, ce qu'on va faire, c'est que ces bacs, ils vont être fabriqués à partir de plastique qui est collecté dans Paris, du plastique alimentaire principalement de bouteilles. Donc on travaille avec une autre association qui bosse avec des gens qui vivent dans la rue ou qui viennent d'en sortir, qui nous collecte du plastique et nous on va le broyer ce plastique, on va le faire fondre, on va fabriquer les bacs à partir de ce déchet qui devient une ressource locale.
Donc c'est un peu ce que je voyais sur votre page sur Bluebees justement, c'est un projet low-tech de permaculture pensé en économie circulaire, bref un vrai projet comme on aime les soutenir dans Envers et Contre Tout. Merci beaucoup Lucas de nous avoir résumé tout ça, et pour soutenir l'association Ici Terre à mettre en place son mur comestible, rendez-vous donc sur la plateforme Bluebees et vous retrouverez le lien sur la page de notre émission. On a un deuxième projet à vous présenter qui nous a aussi tapé dans l'œil. J'imagine que si vous nous écoutez, c'est que vous avez sans doute déjà regardé le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui mettait en valeur les initiatives écolo-positives à travers le monde. Un peu dans la même idée, Marion et Jordan de l'association Out of the Box souhaitent explorer les initiatives qui germent en matière d'alimentation durable. Aujourd'hui, ils souhaitent rendre visite à des porteurs de projets dans 8 pays européens. Ils vont les interviewer, faire de la vidéo, raconter leurs rencontres et faire des articles et des tutos vidéo. Mais pour ça, ils ont encore besoin d'un peu de soutien pour leur matériel audio et vidéo. Alors on vous invite à faire un petit clic sur la page de leur projet Out of the Box sur la plateforme Ulule. Le lien vers le projet sera aussi sur la page de notre émission. Tous les mois, nous mettons en avant des initiatives qui nous inspirent en recherche de financement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire signe sur notre page Facebook Envers et Contre Tout Radio Campus Paris. On passe maintenant au rendez-vous gaiement, une sélection des vêtements garantis sans pesticides.
Les rendez-vous gaiement.
À défaut de pouvoir vous rendre aux négociations de la COP23, nous vous proposons 2 événements en France. Le premier, c'est le Festival Alimentaire. Ça a débuté déjà depuis le 15 novembre et jusqu'à fin novembre. Alors au programme, on a des films qui questionnent un petit peu ce qui se passe dans nos assiettes. Vous pouvez y voir un film qui s'appelle Bugs, donc qui va parler d'insectes, d'Andrea Johnson. C'est un road movie gustatif à travers le monde pour mieux comprendre justement pourquoi ces insectes pourraient devenir le super aliment de 2050. Vous pouvez également voir le film « Nourrir une métropole » de Wilfried Duval, qui est une réflexion sur le futur modèle alimentaire du Grand Paris. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas qu'un festival parisien, mais c'est présent dans plus de 600 communes en France. Et vous pouvez trouver justement une séance près de chez vous sur le site festivalalimentaire.org. L'autre événement qui nous a tapé dans l'œil, c'est un débat sur le coût écologique d'Internet. On pense souvent qu'Internet, c'est une aubaine pour les forêts, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les kilomètres de câbles sous-marins ou encore les fermes de serveurs qui consomment énormément d'énergie, évidemment. Le débat, si vous voulez y participer, aura lieu le 13 novembre à 18h30 à la Recyclerie, qui se situe 83 boulevard Ornano, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est organisé par le Mouton Numérique et animé par Colline Tison, journaliste et réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle « Internet, la pollution cachée » et de Philippe Bioui, ingénieur et auteur de « L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable ». Et pour vous inscrire, je vous le donne dans le mille, c'est sur le site de la Recyclerie et en plus c'est gratuit. Et le prochain événement qu'il faut impérativement inscrire dans son agenda, c'est bien sûr notre prochaine émission vendredi 8 décembre. Envers et contre tout, c'est donc fini pour aujourd'hui. C'est une émission imaginée et préparée par Mathilde Doisy
et Pauline Legrand, avec à la réalisation Étienne Bertin, épaulée par Thomas Chemin et Éloi Tilulki.
Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro et un grand merci encore à nos invités Nicolas et Nathalie. On se retrouve bientôt et en attendant, ne dites plus mort aux vaches, mais
longue vie aux pois chiches.